Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, chers amis auditeurs. Nous voilà réunis une fois de plus pour cette 12e leçon de l'école du sabbat pour le 2e trimestre de l'année 2009. Donc, ça représente la semaine du 13 au 19 juin et le titre en est
« La communauté de foi ».
Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27.
Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Et la pensée centrale pour cette semaine?
Croire et appartenir à une communauté sont des caractéristiques étroitement associées. Dieu désire que nous fassions partie de la communauté qu'il a initiée. C'est un privilège que d'appartenir à une telle communauté, mais cela comporte aussi des responsabilités. Nous avons tous une contribution unique à apporter au corps du Christ.
Les hommes sont des êtres sociaux. Dieu aurait pu créer les hommes parfaits, indépendants les uns des autres, chacun poursuivant ses objectifs propres. Au lieu de cela, il a d'abord créé un homme et une femme, déclarant qu'il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Les deux personnes de ce premier couple étant complémentaires. Elles devaient se multiplier, créer une communauté familiale et par la suite des groupes sociaux plus vastes.
L'un de ces groupes sociaux les plus importants auxquels on puisse appartenir est l'Église. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont plus conscience des bienfaits sociaux que cela apporte. L'Église est plus qu'un simple club pour hommes et femmes partageant un intérêt commun. L'Église est une communauté de croyants qui partagent l'espérance du salut et reconnaissent le Christ comme leur Seigneur.
De cette semaine avec le dimanche 14 juin 2009, et là, le titre est le suivant.
Dieu s'est choisi un peuple.
Le texte de Genèse chapitre 11 rapporte une expérience de vie communautaire qui n'a pas eu l'approbation de Dieu. Quand, après le déluge universel, les descendants des survivants décidèrent de rester ensemble et de construire une ville avec une immense tour au sud de ce qui est aujourd'hui l'Irak, l'Éternel descendit pour voir la ville, nous dit le verset 5 du chapitre 11 de la Genèse.
Ce n'était pas ce qu'il avait souhaité. Pourtant, au chapitre suivant, Genèse 12, la notion de communauté revient sur le devant de la scène, cette fois de façon très positive. Dieu a déclaré à Abraham qu'il voulait former un peuple qui serait le sien. Cherchons dans les Écritures quelle différence majeure existait entre l'initiative communautaire de la tour de Babel et le plan de Dieu visant à faire d'Abraham et de sa postérité son peuple choisi. Et pour cela, commençons par le texte de Genèse, chapitre 11, versets 1 à 3.
Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Nous lisons maintenant le verset 4.
Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. »
Un autre texte dans le livre de la Genèse, chapitre 12, les trois premiers versets, les voici. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
À partir de cet appel fait à Abraham, l'Ancien Testament porte avant tout sur les expériences vécues par le peuple de Dieu, sur ses échecs et ses victoires. Le peuple d'Israël avait pour mission de faire connaître le Dieu de l'Alliance à toutes les nations. Il devait préparer la venue du Messie.
Malheureusement, Israël a failli à sa mission. Quand le Messie est venu, il a été rejeté, tué, comme un criminel par des dirigeants qui auraient dû l'accueillir comme leur sauveur. Mais d'autres lui sont restés fidèles et ont constitué le noyau de la future Église chrétienne. Nous allons lire maintenant dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 et 10, et nous allons voir le message qui est pour nous aujourd'hui.
Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Les croyants du Nouveau Testament se composent de juifs et de gentils, c'est-à-dire de païens, d'hommes et de femmes issus de toutes nations, tribus et groupes linguistiques. Comme l'Israël de l'Ancien Testament, il leur incombe de faire connaître à autrui la grâce divine. Comme l'ancien Israël, eux aussi font partie d'une communauté de croyants.
Et voici les questions qui nous sont posées pour terminer ce dimanche. Quel parallèle peut-on tracer entre l'ancien Israël et l'Église actuelle? Quelles leçons nous enseigne-t-il? Quelles erreurs devons-nous éviter?
Nous allons poursuivre cette étude avec le lundi 15 juin 2009. Et là, nous allons voir justement...
Le privilège d'appartenir à une famille.
Lawrence Peter, éducateur et écrivain américain, a déclaré un jour « Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien, pas plus qu'aller au garage ne fait de vous une voiture. Appartenir véritablement à l'église du Christ est bien autre chose que d'avoir son nom inscrit sur un registre. » Cela signifie comprendre que ce qu'est l'Église et quel rôle y jouer.
En de nombreux endroits, Paul parle de ses frères croyants comme des saints, tels que dans Éphésiens 1.1, Philippiens 1.1 ou encore Colossiens 1.2. Ce terme de saint a acquis aujourd'hui un sens qu'il n'avait pas au temps biblique. Les saints ne sont pas des gens parfaits. Ce ne sont pas des personnes déclarées saintes à la suite d'une procédure ecclésiastique très longue et complexe bien après leur mort.
Pour Paul et pour d'autres auteurs bibliques, le mot « saint » n'avait pas, comme pour nous, les connotations que suggèrent les vitraux de l'Église. Un saint n'était pas un chrétien d'autrefois, quelque grand homme parfait, mais celui qui, appelé et mis à part par Dieu, entrait dans la communauté de foi.
Cherchons à présent quel est le rôle essentiel qui incombe à celui qui appartient à l'Église, ce corps du Christ, et comment les saints devraient se comporter entre eux. Et pour cela, Bernard, est-ce que vous voulez bien nous lire 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 14 ?
En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs.
Il ne faut pas réduire l'Église à une question de statistiques. Chaque membre d'Église a un rôle unique à jouer, une contribution particulière à apporter. Tout croyant absent provoque au moins un certain dysfonctionnement de ce corps. En même temps, aucun membre ne peut prétendre que sa contribution est supérieure à celle d'un autre.
La métaphore du corps et de ses nombreux organes illustre cette vérité de façon sublime. Certains organes semblent plus vitaux que d'autres, comme c'est le cas pour le cœur, le cerveau, les poumons et l'estomac. Pourtant, le bon ou le mauvais fonctionnement d'une seule petite glande est parfois une question de vie ou de mort.
Et à présent, nous sommes invités du corps du Christ. Sommes-nous satisfaits du rôle que nous avons? Jalousons-nous le rôle d'une autre personne? Ou essayons-nous de tirer à nous plus que le nécessaire? Les paroles de Paul nous aident-elles à mieux comprendre le rôle qui devrait être le nôtre?
Eh bien, souhaitons-le. Voici maintenant au mardi 16 juin 2009, et là nous allons voir de quoi il s'agit.
L'appartenance, ce qui est une responsabilité.
Appartenir au corps du Christ est un grand privilège. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Cependant, un privilège s'accompagne toujours de responsabilité.
Qu'implique donc l'image de l'Église en tant que corps du Christ, ainsi que l'image de nous tous en tant que membres de ce corps, en ce qui concerne les responsabilités de chacun, nos responsabilités personnelles? Pour cela, je vous invite à lire avec Bernard dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3.
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Eh bien, Dominique va continuer avec les versets 11 à 13.
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Tous doivent se comporter comme les pièces d'une machine bien ajustée. Chaque partie, dépendant des autres, est pourtant distincte dans son fonctionnement. Chacun doit prendre la place qui lui revient et accomplir la tâche qui lui a été désignée. Dieu invite les membres de son Église à recevoir le Saint-Esprit, à s'assembler dans l'unité, à se témoigner une sympathie fraternelle et à rapprocher leurs intérêts dans l'amour. C'est Ellen White qui dit ceci dans un livre en anglais.
Continuons à chercher quelles autres responsabilités clés incombent à tout membre d'Église. Et pour cela, prenons le texte de 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2.
1 Corinthiens 16, 1 et 2. Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Nous avons encore un texte à vous lire. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 14 à 18. Dominique.
Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et puis nous allons prendre un dernier texte dans Hébreux, chapitre 10, verset 25.
Ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Et ce n'était pas le dernier texte,
non,
puisqu'il y a encore
mais
un
Pierre. Mais le voici, le dernier texte, il se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 15.
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. »
De nombreuses personnes vivent dans des sociétés de consommation et par conséquent ont tendance à apporter cet état d'esprit dans leur église. Beaucoup posent la question suivante. Que puis-je en attendre? Plutôt que comment puis-je contribuer à l'aide de mes talents et de mes dons à la vie de l'église? Quand John Fitzgerald Kennedy est devenu président des États-Unis en 1961, il a prononcé ces mots immortels. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.
Ces mots peuvent s'appliquer également à l'attitude à avoir envers son Église. Même si celle-ci fait beaucoup pour ceux qui la fréquentent régulièrement et participent à ses nombreuses activités, nous devrions avant tout nous demander constamment comment mieux servir. Comment encourager nos frères et sœurs? Comment devenir un modèle pour les jeunes? Comment contribuer à faire de notre église locale un foyer spirituel où de nombreuses personnes trouveront ainsi la paix intérieure et une réponse à leurs besoins?
Et voici les questions qui sont proposées par l'auteur de ce questionnaire. Posez-vous les questions suivantes, nous dit-il, et examinons honnêtement les réponses. Pour quelles raisons précises est-ce que je me rends à l'église? Que vais-je recevoir? Que vais-je donner? Et ainsi s'achève cette journée du mardi 16 juin 2009.
Journée du mercredi 17 juin, qui a pour titre
« L'unité dans la diversité ».
De nombreux chrétiens se battent pour une plus grande unité entre les diverses confessions. Ils parlent du scandale de la division et rappellent que le Christ, à maintes reprises, a appelé ses fidèles à s'unir. L'unité est également un terme clé de l'Église adventiste. Elle ne se cantonne pas à une organisation identique partout dans le monde, ni à l'uniformité des styles de culte et autres traditions. Il s'agit en fait de quelque chose de plus profond.
Eh bien, nous allons lire un texte là, qui va répondre à ceci, et nous le trouvons dans Jean chapitre 14 et le verset 6 que nous lira Dominique.
Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous continuons avec Éphésiens 4, versets 11 à 14.
Tout d'abord, les deux premiers textes. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Et nous continuons, 13 et 14.
Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice.
L'unité véritable exige une adhésion commune en tant que parole de Dieu et à ses enseignements fondamentaux, ainsi que le désir commun de mettre ces derniers en pratique.
Mais l'unité n'exige pas que tous les membres pensent et adorent exactement de la même façon. Elle n'annule pas la magnifique diversité culturelle qui donne sa richesse à notre Église communautaire mondiale.
Et nous allons lire maintenant en quoi la description de la Nouvelle Jérusalem illustre la magnifique diversité qui caractérise le peuple de Dieu. Nous trouvons ce texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 22 à 24 tout d'abord.
« Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et prenons les versets 25 à 27 maintenant.
Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
La Nouvelle Jérusalem évoque une cité concrète, réelle, que Dieu crée pour son peuple, même si la description en est fortement symbolique. Ce qui frappe à la lecture du texte que nous venons de lire, c'est l'accent mis sur la diversité. Ce qui n'est pas surprenant, puisque les rachetés viendront de toute tribu, nous est-il dit, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Les branches de la vigne témoignent d'une grande diversité, et pourtant au sein même de celle-ci règne l'unité. Chaque branche est unie au pied mère. Chaque branche tire sa nourriture de la même source. Lorsque nous serons comme les branches de la vraie vigne, il n'y aura plus de querelles entre nous, plus de combats pour être les premiers, plus de mépris les uns envers les autres. Un texte encore d'Ellen White qui date du 25 avril 1901.
Et voici le texte, les questions sur lesquelles nous avons à méditer pour cette journée du mercredi. Puisqu'il y aura au ciel une telle diversité, pourquoi existe-t-il des conflits ethniques dans nos églises? Pourquoi avons-nous tendance à nous rapprocher de ceux qui nous ressemblent plutôt que des autres? Et quelle sorte de message envoyons-nous en agissant de la sorte?
Eh bien, réfléchissons-y, bien entendu. Et là, nous allons voir justement...
Jésus-Christ, fondement de l'Église.
Nous parlons souvent de notre Église. Nous avons de multiples raisons d'être fiers de notre Église. Mais nous savons aussi qu'elle n'est pas parfaite. Nous avons investi une grande part de nous-mêmes dans l'Église, une part de nos talents, de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Nous avons de bonnes raisons de la considérer comme nôtre. Cependant, en analyse finale, elle ne l'est pas. Elle appartient à Dieu. Différence essentielle.
Lisons ce qu'a déclaré le Christ lui-même en réponse à la question de savoir à qui appartenait l'Église. Et nous lirons ceci dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18.
« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »
Cette déclaration de Christ au sujet de la pierre sur laquelle serait construite l'Église de Dieu a été diversement interprétée par un grand nombre de théologiens. Quand on prend en considération la totalité du contexte et les autres preuves bibliques, rien ne suggère que Pierre était ce rocher et qu'il aurait la charge particulière de transmettre son autorité aux futurs évêques de Rome. La confession de Pierre affirmait que le Christ était le Fils du Dieu vivant, et le rocher sur lequel Dieu a fondé son Église.
Réfléchissons maintenant au sens des autres symboles utilisés pour souligner cette même vérité, à savoir que l'Église a été fondée sur Jésus-Christ et qu'il s'agit de son Église plutôt que de la nôtre. Un premier texte que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 20.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et nous restons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 16.
De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Et un autre texte dans l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 19 et 20.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises.
Comme tant de passages du livre de l'Apocalypse, la description de Jésus-Christ dans Apocalypse, justement, est remplie d'images tirées de l'Ancien Testament. Le Christ est présenté comme marchant au milieu de sept porte-lampes ou de sept chandeliers. Il est vêtu comme un grand prêtre. Cela nous rappelle aussitôt le symbolisme du porte-lampe ou du chandelier de l'ancien tabernacle qui montrait à son peuple que Dieu était présent.
Avant d'entrer dans les détails de ce qui doit arriver bientôt, le livre de l'Apocalypse s'assure de la justesse de notre perspective. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, notre grand prêtre céleste qui, loin d'être quelque divinité distante et figée, marche au milieu de son Église.
Réfléchissons maintenant. Si de façon ultime l'Église appartient à Dieu, quel est donc notre rôle? En sommes-nous les gestionnaires? Quelles responsabilités sont donc les nôtres? Sommes-nous à la hauteur de telles responsabilités? Que pourrions-nous donc améliorer? Ainsi s'achève cette journée du jeudi 18 juin.
Nous allons terminer cette semaine avec la journée du vendredi 19 juin. Pour aller plus loin, dans Matthieu 16, 17, nous lisons ceci. Jésus répond à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La vérité confessée par Pierre constitue ici le fondement de la foi du croyant. C'est d'elle que le Christ lui-même a dit qu'elle était la vie éternelle.
Mais la possession de cette connaissance ne doit pas être une raison de se glorifier. Ce n'est pas par une sagesse ou une bonté personnelle que Pierre parvenait à cette vérité. L'humanité ne parviendra jamais par elle-même à la connaissance des choses divines. Elles ont la hauteur des cieux. Que pourrais-tu donc faire? Elles sont plus profondes que le séjour des morts. Comment les connaîtras-tu? C'est dans Job 11, 18. Seul l'esprit d'adoption nous fait distinguer les choses profondes de Dieu, cité par Ellen White dans Jésus-Christ.
Et voici maintenant quelques points à méditer. Être membre d'Église est-il une condition nécessaire au salut? Peut-on rejoindre l'Église pour d'autres raisons? Dans l'affirmative, lesquelles? Faire partie d'un corps, d'un tel corps que l'Église, apporte quel bienfait important? En même temps, à quoi devons-nous faire attention?
Certains disent « Je ne vais plus à l'église. Elle me laisse un sentiment de vide. Quand je sors dans la nature, je vis une expérience religieuse plus profonde qu'en écoutant un sermon inintéressant. » Que répondre à cette personne?
Réfléchissons encore aux questions soulevées dans cette leçon sur la diversité ethnique de nos églises. Pourquoi, entre tous, les chrétiens doivent-ils être particulièrement tolérants et aimants, indépendamment de ces différences ethniques? Comment parvenir à vivre selon ce que le Seigneur attend de nous au sujet de l'importante question de l'harmonie raciale et ethnique?
En résumé pour cette semaine, l'Église est née d'une initiative divine. C'est l'Église de Dieu plutôt que la nôtre. Nous sommes membres du corps de Christ, chacun ayant une fonction propre. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il en est la tête. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'uniformité, mais à faire notre possible pour maintenir une véritable unité en Christ. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette semaine d'études.
Et nous en avons encore une?
Oui, et en attendant, nous disons donc à nos auditeurs, donc à
bientôt.
À la
semaine prochaine.
Voilà.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Jesus is love.